J'ai le plaisir de recevoir au téléphone Lise Bourbeau. Lise Bourbeau, on la connaît bien, elle est fondatrice du Centre de développement personnel Écoute ton corps, qu'elle a créé au Québec en 1982. Son enseignement pratique, la philosophie simple qu'elle transmet, aide des milliers de personnes à travers le monde à apporter des changements concrets dans leur quotidien. En 1987, elle écrit son premier livre intitulé « Écoute ton corps, ton plus grand ami sur la Terre ». Et elle a fondé sa propre maison d'édition, les éditions ETC. Depuis, elle a écrit plus de 20 livres, tous devenus des best-sellers, comme Les 5 blessures, évidemment. Elle dépasse les 4 millions de livres vendus, traduits en 20 langues à travers le monde. Lise Bourbeau, bonjour.
Bonjour.
C'est un grand plaisir de vous avoir au téléphone aujourd'hui.
Oui.
Comment allez-vous? Je sais qu'en ce moment, vous êtes en pleine tournée, là, un petit peu partout en Europe.
Ah oui, je tiens le coup, ça va bien, mais il fait tellement beau, et puis je me loue une auto quand j'arrive à Paris, puis c'est moi qui me conduis partout, parce que je trouve ça tellement beau, la France, je me régale là, mes yeux avec toute la belle nature partout, comme là j'arrive de Montpellier, je remets Montpellier, et puis c'était tellement beau encore, j'ai dit, mon Dieu, c'est toujours des paysages différents, mais... Ah, vraiment, vous avez un beau pays, surtout quand il fait beau comme ça. Hein.
Surtout dans le sud, là vous êtes à Aix-en-Provence pour votre dernière conférence.
Oui, c'est ça. Oui.
Vous avez fait l'Allemagne, la Belgique, la Suisse, la France, ça va pas,
oui.
Trop, pas trop fatigué?
Ça va quand même, j'ai le temps de me reposer un peu à tous les jours. Il y a des fois que j'ai 2 jours entre chaque conférence, donc ça me donne une journée de répit là, pour parce que c'est sûr que c'est pas toujours facile de défaire les balises. Enfin, comme aujourd'hui, là, c'est mon 13e déménagement que je viens d'arriver. Là, il me reste un atelier à faire ce week-end, vendredi, samedi, dimanche. C'est un atelier que je suis la seule à faire, que je fais juste une fois par année, qui s'appelle Écoute ton âme. Donc ça, c'est à Archamp. Fait que ça me fait quand même assez de peut-être un 400 km à faire demain là, pour me rendre là. Mais après ça, j'ai un autre arrêt en Suisse et c'est le départ pour le Québec.
Alors là, en ce moment, quand vous faites une tournée comme ça, votre corps, il vous dit quoi?
Ben, c'est moi plutôt qui lui parle. C'est moi qui lui dis toujours, ah, tiens le coup, puis je te remercie beaucoup de collaborer avec moi, parce que des fois, je me couche souvent à 2h du matin, parce que les conférences finissent 11h, 11h30, le temps de manger, me rendre, bon, enfin. Et puis, mais j'ai une bonne entente quand même avec mon corps. Je suis assez tonique, et puis j'ai une bonne santé, beaucoup d'énergie. Donc, quand j'ai des moments que je lui en demande beaucoup, là, ça va. Je me sens bien d'une journée à l'autre. Et puis, il sait que quand je vais revenir chez nous, là, je vais prendre le temps là, de me poser et puis de le reposer. Mais dans l'ensemble, ça va bien.
Moi, je vous dis ça parce que c'est quand même un petit peu vous qui nous avez appris qu'il fallait qu'on écoute notre corps, que c'était notre meilleur ami.
Oui. Ben, je l'écoute, moi, dans le sens que je mange le mieux que je peux. Je m'occupe de mon corps quand même. Tu sais, je sens quand j'ai un repos, comme tout à l'heure, en arrivant, je sentais que j'avais une petite baisse. Je me suis étendue une demi-heure, j'ai fait une petite sieste. Bon, c'est comme ça, on s'entend bien, mais ça fait tellement d'années que je suis alerte. Hein. Si j'ai un petit signal, tout de suite, je m'en occupe. Hein.
Alors, c'est vrai que ça fait longtemps, c'était dans les années 80 que vous avez commencé à nous proposer et à nous offrir des livres très intéressants qui nous apprennent justement à écouter son corps. Vous-même, ça a commencé par un constat et un cri de votre corps qui débordait un peu peut-être.
Ben moi, j'ai commencé, j'ai travaillé dans le domaine de la vente et puis tout à coup, je me suis surpris à avoir un problème de poids, ce que j'avais jamais eu avant. Les vêtements, tout à coup, ça rentrait plus. J'ai dit, mon Dieu, il faut que je me mette au régime. Puis c'est à ce moment-là que comme j'aimais pas les régimes, que j'ai eu l'idée de noter tout ce que je mangeais à tous les jours pour voir comment ça fait que j'avais pris du poids, pour réaliser que c'était pas ce que je mangeais vraiment qui m'avait fait prendre du poids, mais mon attitude face à ce que je mangeais. Et c'est là que j'ai commencé Elle disait plein de choses. Des fois, on mangeait par émotion, des fois, on mangeait par habitude, bon, et puis par appétit, par gourmandise. Plutôt que de manger juste quand on a faim, ou bien on mangeait des choses pour pas que ça se perde au lieu de manger ce dont notre corps a besoin. Donc, c'était une grosse prise de conscience. Et je me suis aperçue que j'écoutais pas plus mes autres besoins, mes besoins de repos, mes besoins d'écouter mes limites, mes besoins. Bon. Et ça a été une grosse prise de conscience qui a duré plusieurs mois. Là, je suis revenue à mon poids normal et sans régime, juste à manger quand j'avais faim et ce que j'avais besoin. Et ensuite, c'est là que j'ai fait un rêve. J'ai fait un rêve, je me suis réveillée une nuit, là, je venais d'avoir un rêve, je me voyais devant une grande foule, là, puis enseigner aux gens à écouter les signaux de leur corps. Puis, mais il faut dire aussi qu'entre-temps, pendant que je faisais tous ces changements-là, toutes mes malaises et maladies sont parties. Hein, c'est les maux de dos, le rhumatisme, l'arthrite, la constipation, toutes ces choses-là partaient. Fait que j'ai fait un lien que... la façon que je vivais, c'est ça qui occasionnait mes maladies. Donc, j'ai commencé à m'intéresser à tout ça aussi. Voilà.
Alors, ce qui occasionnait vos maladies, c'était quoi? C'était le fait de ne pas écouter votre corps, de lui demander toujours plus, soit du régime, ça soit de la nourriture qu'il ne voulait peut-être pas forcément?
Des maux de dos constants, tout le temps des maux de dos. Alors, c'est parce que je mettais tout sur mon dos, je me mêlais pas de mes affaires, j'essayais de contrôler tout le monde, le conjoint, les enfants, puis je me plaignais qu'ils m'aidaient pas, alors que c'est moi qui étais trop contrôlante, exigeante, rigide. Je voulais toujours que ce soit fait à ma façon, quand je voulais, comme je voulais. Ça, c'était mes maux de dos. Les problèmes de digestion, de constipation, c'était parce que je critiquais beaucoup, j'avais de la difficulté à digérer plusieurs personnes.
Ça doit être difficile de se regarder comme ça, de se dire, bon, finalement, je critique trop les gens. Il faut être capable d'une autocritique, en fait.
Oui. C'est des prises de conscience pas faciles pour l'ego, quand même, parce que je découvrais... Puis, j'étais seule avec mes trois adolescents. Là, je venais de me divorcer peu avant ça, avant cette prise de conscience-là. Donc, là, j'ai réalisé la cause de mon divorce. Fait que ça a été des grosses remises en question. Puis finalement, quand je commençais à réaliser c'est important que je me regarde telle que je suis. Puis, fait que toutes les choses ont commencé à se transformer pour le mieux, les maladies. C'est parce que notre corps, quand il nous parle, c'est pour nous avertir de quelque chose qu'on veut pas voir. Une fois qu'on le voit, qu'on dit, ah ben mon Dieu, c'est vrai, c'est bien trop vrai, je suis comme ça, c'est vrai que je suis rigide et exigeante. Hein. Autant j'étais exigeante envers moi, autant je l'étais envers les autres. Ceux qui connaissent les blessures, ils se reconnaissent bien là, dans l'attitude du contrôlant puis du rigide. Là. Mais alors mes maladies partaient. J'ai dit, oh mon Dieu, mais c'est quoi? J'étais tellement emballée là, par toutes ces découvertes-là aussi, puis de voir l'intelligence du corps, hein, c'est vraiment spécial. Mais j'avais jamais pensé, moi, d'en faire un enseignement. T'sais, c'était toutes des choses que je découvrais pour moi, mais dans mon rêve, ça me disait maintenant de transmettre ça puis d'enseigner ça aux autres.
Et puis alors donc, en 30 ans maintenant, vous avez combien? Vous avez écrit plus de 25 livres, je crois? Des centaines de milliers de lecteurs?
Oui. Je viens d'atteindre le 4,5 millions de livres vendus. Là. Justement, j'ai eu cette nouvelle-là avant de partir de chez moi au début septembre. Là. Fait que c'est vraiment... Ça, c'est des beaux cadeaux parce que je me suis jamais vraiment considérée une auteure. Je me considère beaucoup plus comme une enseignante parce que j'adore parler aux gens. Mais quand j'écris, je dois m'imaginer debout devant les gens en train de parler. Fait que c'est comme ça que j'écris. Et puis,
En tous les cas, ça veut dire que c'est un écho, que les lecteurs, les personnes qui vous écoutent reçoivent, se sentent complètement concernées par ce que vous dites. Doivent quand même retrouver des choses qui leur parlent. Alors, au fur et à mesure de vos livres, vous nous avez appris à reconnaître les 5 blessures.
Oui.
Le rejet, l'abandon, la trahison, l'injustice, l'humiliation. Comment vous les avez découvertes, ces 5 blessures?
J'ai fait une formation parce que que moi, j'ai réalisé cette année que ça faisait 50 ans que je faisais du développement personnel. J'ai commencé, j'avais 25 ans à m'intéresser, à acheter des livres, faire des ateliers. Comme le premier livre que j'ai acheté, c'était La puissance du subconscient de Joseph Murphy, qui se vendait dans ce moment-là, juste en anglais, puis dans une librairie à Montréal, c'est tout. Puis il n'y avait pas beaucoup dans ce domaine-là dans le temps. Mais j'étais passionnée, surtout quand je travaillais dans le domaine de la vente, ça m'aidait pour être plus positive. Donc j'ai toujours continué à faire des formations. Tout m'intéresse, j'aime tout savoir. Puis ma force, un talent que j'ai découvert, que j'ai, c'est de prendre un peu de tout ce que j'apprends, faire des nouvelles synthèses avec ça, puis faire des nouveaux produits. Puis j'ai vraiment une bonne tête à synthèse, mais j'aime apprendre des autres, je lis toujours, mais c'est ça, j'ai fait une formation, ça s'appelait Des blessures, c'était avec John Pierakos, un Américain qui est maintenant décédé, mais lui, la formation c'était pour travailler en privé, utiliser ses méthodes en consultation privée, pour aider à découvrir la blessure d'humiliation. On touchait un certain endroit sur la cuisse, puis ça éveillait la blessure pour la personne. Puis c'était pas comme je le fais là, mais quand même c'est lui qui m'a donné la base des 5 blessures. Mais le nom des masques et puis tout ça c'est moi, c'est les noms que moi j'ai donnés. Ensuite avec les parents, quels parents, c'est à force d'observation sur moi et tout le monde, j'ai fait une synthèse assez importante quand même des blessures, parce que je suis pas la seule qui parle de blessures, mais chaque personne comme comment il s'appelle, Jacques Salomé, il en parle des fois des blessures dans son enseignement, mais il en parle pas du tout de la même façon que moi, parce que je pense que tout le monde qui l'a appris de John Pierakos, on est parti chacun avec notre synthèse, hein.
Chacun, oui, ajoute sa personnalité, le perçoit avec sa propre sensibilité et peut le diffuser auprès des personnes qui partagent cette sensibilité. Ça nous permet aussi, nous, de mieux comprendre en vous lisant, parce qu'on est peut-être plus sensible à votre façon d'être ou d'écrire.
Ben c'est ça, tu sais, on peut pas. Des fois, il y a des gens, de la façon qu'ils l'enseignent, que c'est pas aussi clair, hein, ça en prend pour tous les goûts. Hein, c'est,
oui.
Moi, j'ai ma méthode à moi, mais comme j'ai beaucoup de gens maintenant qui ont pris ce que moi j'enseigne, puis qui font d'autres synthèses avec, ils font des liens, les 5 blessures avec les 5 éléments de la nature, avec, tu sais, différents, des enseignements orientaux, et puis, fait que c'est tout ça intéressant de voir que ça peut toujours se développer de toutes sortes de façons.
Alors, dans vos ouvrages, je citerai quelques-uns. Un qui intéresse et qui concerne beaucoup de personnes, Le cancer, un livre qui donne de l'espoir. Alors ça, c'est un livre que beaucoup de gens doivent avoir envie ou devraient lire, parce que là on s'aperçoit que dans vos recherches, hein, vous apercevez que le rejet est souvent derrière le cancer. C'est ça?
Toujours. Ah oui, là maintenant je peux l'affirmer parce que ça fait tellement longtemps, ça fait que je fais des recherches, puis dans tous les ateliers, sans exception, on travaille avec des gens qui ont le cancer, parce que c'est une épidémie maintenant, le cancer. Et alors moi, quand j'ai commencé à me dire, mais mon Dieu, c'est, tu sais, je faisais les liens, puis je voyais bien là que c'était le rejet. Mais c'est pas nécessairement juste la blessure de rejet, parce que tout le monde a la blessure de rejet, mais à des différents degrés. C'est la personne qui, à cause de sa blessure de rejet, fait du déni, veut pas du tout voir qu'elle a souffert de rejet de son parent du même sexe, qu'elle met complètement le couvercle dessus, puis elle se dit, oh ben non, ça... C'est pas le grand amour avec mon papa, disons, le monsieur qui me dit ça. Mon père était plutôt froid, il était sévère, mais tu sais, moi, j'ai toujours su qu'il faisait son mieux, puis il faisait son possible. Mais tu vois, ils sont pas capables, ils veulent pas sentir la douleur du rejet. Et c'est ça qui finit par les manger de l'intérieur. Et d'ailleurs, la blessure de rejet, selon moi, elle est à la base de tous les problèmes de maladies importantes, les problèmes de maladies psychiques, hein, et toutes les. Et puis c'est pour ça que pour moi, quelqu'un qui lit ce livre-là, ça peut les aider beaucoup, beaucoup à prévenir une maladie importante qui se développe avec l'âge, parce que on n'en est pas conscient qu'on a cette blessure-là.
Non, c'est pour ça que je cite votre livre, parce que ça paraît vraiment important de pouvoir. Alors, je ne sais pas, après, une fois qu'on sait que c'est le rejet, est-ce qu'on peut travailler dessus? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut atténuer le risque d'être tombé malade, en fait?
Ben oui, parce que quand les gens vont arrêter de faire le déni, ça va arrêter de les manger de l'intérieur. Quand ils vont être capables de juste oser se l'admettre, hein, c'est comme la jeune femme là, que j'écris dans le livre qui est. Parce que quand j'ai écrit ce livre-là, d'ailleurs, j'ai fait pendant un an de temps beaucoup, beaucoup d'entrevues en personnel, par Skype, par téléphone avec des gens qui ont eu ou qui avaient le cancer pour bien confirmer toutes mes synthèses avant de l'écrire dans le livre. Et ça n'a jamais arrivé qu'une des personnes que j'ai interviewées a dit, ah oh, oui, moi, ça fait longtemps que je sais que je souffre de rejet avec mon père ou ma mère. J'ai pas une personne l'a admis. Même celle qui, quand elle est arrivée, la quatrième ou cinquième enfant, puis un enfant de trop, là, que les parents désiraient pas. Et, fait qu'ils l'ont appelé l'accident.
Ah, oui.
Fait que depuis qu'elle est au monde, que quand ils l'appelaient, là, je sais pas, mais ils disaient, hey, l'accident, viens manger, leur repas est prêt, tu sais. Et tout le monde, ses frères et soeurs, ses parents l'appelaient l'accident. Puis eux autres trouvaient ça drôle. Mais, ouais, imaginez, elle a même pas droit à son nom, parce que c'est ça, la blessure de rejet, c'est comme si on n'existait pas. On a l'impression que on vaut rien face aux yeux des autres, qu'on est tellement nul, puis rien, que même si on n'était pas là, ça ferait pas de différence dans leur vie. Même si elle m'a raconté tout ça, là, on l'appelait l'accident, pas une fois qu'elle a dit, j'ai dit, ça a dû être terrible pour toi de te faire appeler comme ça. Puis là, non, ben, eux autres, ils trouvaient ça drôle. Eux autres, puis ils m'ont appelé comme ça. C'est pas une fois qu'elle a dit, est-ce que je me sentais rejetée, puis m'ont dit que ça me faisait mal. Non, elle n'a pas senti la douleur du rejet. Et c'est ça qui fait que ça nous mange à l'intérieur de nous. Il faut apprendre à sentir. C'est pour les gens qui en deviennent conscients de leurs blessures, commencent à sentir que oui, je me sens rejetée, puis oui, c'est comme si j'étais rien, puis j'existais pas. C'est là qu'ils commencent le début de leur guérison.
Alors, on a le rejet. Et puis, dans votre livre suivant, qui est sorti l'année dernière, La guérison des cinq blessures, un livre très, très attendu par vos lecteurs, on s'aperçoit que l'ego est aussi quelqu'un de pas très bien avec nous.
Oui, j'ai décidé d'y mettre le paquet pour l'ego parce que j'hésitais à écrire un livre sur la guérison, puis je me disais, de quoi je vais écrire, sur quoi je vais écrire, parce que il me semble que j'ai déjà écrit un chapitre dans l'autre livre sur la guérison, puis je pensais pas d'avoir assez de matériel pour faire tout un livre. Mais là, quand je suis devenue consciente à quel point l'ego était fort, puis que la grosse cause des blessures qui continuaient d'être alimentées tout le temps, que ça continuait, c'est parce que les gens se rendaient même pas compte que c'était leur ego. Pour devenir conscient des blessures, il faut être conscient que dans le moment, c'est plus moi qui mène ma vie, c'est mon ego. Puis pour devenir conscient de l'ego, ben il faut savoir c'est quoi l'ego. Donc c'est pour ça que j'en ai beaucoup parlé avec plein d'exemples. Là. Puis comment reconnaître que notre ego a pris le dessus, puis c'est plus nous qui menons notre vie. Et avec l'espoir que les gens vont devenir plus conscients de leurs blessures, comme ça ils vont pouvoir y travailler.
Ben oui, parce que c'est pas tout de savoir qu'on a des blessures, c'est quand même bien de pouvoir les soigner et de pouvoir passer à autre chose, à une étape où on s'exprime.
Oui, parce qu'on tourne toujours en rond. Hein, et on change de conjoint, on change de travail, on change. Mais il y en a qui changent de pays, qui viennent se sauver, qui s'en viennent au Québec. C'est pas mieux, la vie continue, puis toujours les mêmes choses qui se répètent. Fait que on voit bien qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas vu hein, quand il n'y a rien qui change dans la
vie. Ah ben oui. Quand ça se reproduit, c'est qu'on a raté quelque chose, quoi.
Ben oui, c'est que les moyens qu'on utilise jusqu'à maintenant sont pas les bons. On voit pas la réalité. Si c'est toujours la même chose qui continue, fait que. Mais c'est ça. Quand on le sait pas, même moi, en écrivant sur l'ego, j'ai réalisé que mon Dieu, c'est encore mon ego. Mon ego. J'étais tellement surprise de voir à quel point encore l'ego prenait le dessus quand ça fait tellement longtemps que je travaille là-dessus, mais on n'est pas conscient. C'est tellement sournois l'ego, là, ça nous arrive là, à notre insu, qu'on s'en rend pas compte qu'on se fait jouer des tours sans arrêt.
Donc notre ego est un Un bel ennemi, pourtant il est, c'est l'ennemi de l'intérieur en quelque sorte.
Ben c'est ça, c'est vrai que c'est notre ennemi parce qu'il nous a, il éloigne de, d'être ce qu'on veut être tout le temps, ben, en nous faisant des peurs, des culpabilités et tout, mais lui, l'ego, il est convaincu qu'il nous aide parce que c'est nous qui l'avons alimenté, c'est nous qui le laissons faire, fait qu'il prend beaucoup de pouvoir, puis il est convaincu, lui, que s'il nous fait peur, qu'il dit non, fais pas ça, là, si tu dis ça, on t'aimera pas, il nous empêche d'oser aller vers ce qu'on veut en pensant qu'il va nous aider à moins souffrir, mais il sait pas, lui, que et qu'il ne peut pas savoir nos besoins, nos vrais besoins. Tout ce qu'il sait, lui, c'est ce qu'il a programmé dans c'est comme un ordinateur qui répète toujours la même chose, hein. Et c'est une programmation, c'est juste la mémoire de l'ego. Fait que il peut pas connaître nos besoins. C'est pour ça que c'est.
Est-ce qu'il a des bons côtés quand même? Est-ce qu'il peut nous être utile quand même, d'après vous?
Ben, il est utile en nous montrant que on s'en va à l'opposé de nos besoins. Fait que aussitôt qu'on a un malaise, l'ego, on commence à se sentir coupable, on a des peurs, fait que là, on sait que c'est l'ego. Aussitôt qu'on n'est pas bien, c'est l'ego qui est présent. Ben là, on dit, ah, il y a quelque chose qui se passe, si j'ai laissé mon ego prendre le dessus, c'est parce que ça, c'est pas ça que j'ai besoin. Fait que ma décision que je suis en train de prendre, basée sur une peur, elle n'est pas la bonne pour moi, là, j'écoute pas mon besoin. Fait que c'est sa plus grande utilité, finalement.
D'accord. Oui, c'est de s'apercevoir qu'on se trompe, ouais. En fait. Alors, ouais. Dites-moi, Lise, fin novembre, enfin début 2017, là, vous sortez Écoute ton corps, ton plus grand ami sur Terre, mais pour les hommes.
Oui, oui.
Qu'est-ce qui vous arrive?
Ah oui, j'ai eu du plaisir cet été à tout réviser, le livre Écoute ton corps, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup d'hommes qui favorisaient les autres livres, puis même quand ils viennent à la table de vente où sont tous les livres, là, ils prennent pas le livre rose, parce qu'il est rose, ils prennent pas dans leurs mains comme les autres, puis on s'est dit, c'est peut-être... ça fait tellement de longtemps que ça dure, ça, l'idée, rose c'est pour les femmes, bleu c'est pour les hommes, tu sais, c'est toujours un petit blocage psychologique qui est inconscient, là, et fait qu'on a pensé d'en écrire un avec une page couverture qui va plaire aux hommes, et puis avec juste des exemples pour les hommes dedans.
Oui, parce que le message s'adresse aussi bien aux femmes qu'aux hommes, en fait.
Oui, évidemment. Oui, oui, parce que il y a des milliers d'hommes qui ont lu Écoute ton corps quand même, puis ils sont capables de se retrouver là-dedans s'ils ont des culpabilités comme tout le monde. Mais c'est pour qu'ils soient plus attirés vers le livre, c'est ça qu'on a pensé.
C'est pour dépasser peut-être le piège, oui, de l'ego qui empêche l'homme de prendre un livre rose. C'est peut-être ça. Dites-moi, Lise Bourbeau, avant que je vous dise au revoir et que je vous remercie de nous avoir accordé ce petit entretien, quelle est votre actualité? Que faites-vous après Aix-en-Provence? Vous retournez au Canada?
Ben là, après cette conférence ce soir, je fais l'atelier Écoute ton âme à Archamps. Hein,
Archamps.
Tout à l'heure. Mmh. Écoute ton âme, c'est un atelier assez spécial sur le monde de l'âme et l'esprit, la réincarnation, la mort. Il y a des gens qui ont beaucoup peur de la mort. Et on parle de ces choses-là. On parle de l'intuition. Je peux faire des exercices d'intuition. Je parle beaucoup d'écouter notre plan de vie. Je peux faire une régression pour que les gens retourne avant de naître pour savoir pourquoi on revient sur la planète. Ensuite, mais le plus grand cadeau de cet atelier-là, c'est un grand exercice de réconciliation et de pardon avec soi et avec les autres. Pour moi, c'est le grand ménage de l'âme, là. Et puis après ça, ben là, oui, je retourne chez moi au Québec, c'est ça. Et puis ensuite, au mois de novembre, je retourne au Japon.
Au Japon.
Oui.
Je rappelle à nos auditeurs qu'on peut retrouver tous les livres, hein, dont on vient de parler sur votre site, oui. www.lisebourbeau.com.
Oui. Et dans toutes les librairies aussi. Hein.
Et dans toutes les librairies, mais comme une web radio, l'internet, c'est quand même c'est un endroit que pratiquent bien nos auditeurs. Mm-hmm. Lise Bourbeau, merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Très bonne continuation.
Oui.
Merci. Et merci pour tous ces conseils. Oui. Au revoir.
Merci, au revoir.